Alors, vous écoutez Radio Campus Tours 99.5 FM et nous sommes toujours à la Vegan Place à Tours sur le boulevard Horteloup. Pour cette troisième et dernière table ronde de l'après-midi, nous allons parler de deux notions importantes de l'éthique animale, ce domaine de recherche qui interroge le statut moral des animaux et la responsabilité morale des humains à leur égard. Alors, nous allons parler d'antispécisme et de sentience, deux concepts importants pour les défenseurs de la cause animale. Et on en a un peu entendu parler aujourd'hui. Tout d'abord, ce matin, on a pu écouter Peter Singer, le philosophe qui a largement popularisé la notion de spécisme avec son livre « La libération animale » qui était paru en 1975 et qui a fortement influencé les militants pour les droits des animaux. Et tout au long de la journée, les visiteurs ont pu aussi découvrir une exposition sur la sentience élaborée par le collectif Projet Méduse qui défend les intérêts des êtres sentients. Alors pour vous aider à mieux comprendre l'antispécisme et la sentience, nous recevons en cette fin d'après-midi deux membres du Projet Méduse. Tout d'abord Florence Delry, qui est autrice et illustratrice scientifique. Nous l'avions reçue il y a 2 ans. Parler de son travail d'illustratrice. Elle réalise de très belles représentations d'animaux pour des revues et des maisons d'édition, mais aussi pour les lauréats du prix Maya, dont c'est la marraine. Donc voilà,
oui,
les trois auteurs ont été très contents de leurs belles illustrations que tu leur as remis. Elle est aussi la créatrice du site Questions Animalistes, où elle partage des réflexions et des outils informatifs sur l'éthique animale. Nous accueillons aussi Orlando Benta.
Bonjour.
Voilà, lui, c'est le fondateur de Réplique Éthique, un collectif présent sur Internet qui propose des contenus informatifs et de vulgarisation autour des luttes sociales et notamment autour du sentientisme.
Exactement.
Voilà. Et enfin, pour apporter un témoignage sur le rôle important joué par les sanctuaires et refuges animalistes dans le changement de notre relation avec les animaux dits de ferme, les animaux qui sont le plus massivement victimes dans notre société spéciste, nous recevons aussi Anne-Lorraine Vigouroux, fondatrice du refuge L'Autre Ferme, un refuge qui est situé en Charente, où vivent désormais paisiblement des animaux rescapés de l'élevage.
Bonjour.
Alors pour commencer, je vais me tourner peut-être plus vers Florence et Orlando. Il s'avère que pour comprendre l'antispécisme, il faut d'abord dans un premier temps définir ce qu'est le spécisme. Alors d'où vient cette notion de spécisme et de quoi est-elle le nom ?
Alors la notion de spécisme, elle est née de Richard Rider, qui est un psychologue américain, qui a créé le terme par analogie avec le racisme et le sexisme, qui sont des discriminations basées, comme chacun et chacune sait, sur le sexe, le genre et la race sociale, l'origine supposée, etc. Le terme de spécisme, il a été construit de la même manière pour décrire la discrimination arbitraire basée sur le critère d'espèce. Donc plus concrètement, et pour aller très vite, parce qu'on n'a pas 3 heures non plus, mais c'est une discrimination arbitraire qui s'exerce envers les animaux non humains, où on va considérer que Homo sapiens, c'est une espèce qui est supérieure à tous les autres animaux qui seraient inférieurs. Donc ça crée un nombre d'exploitations, de systèmes de domination et de souffrances donc, qui sont importantes. Peut-être que... Non, ben voilà, ouais. En très résumé, c'est ça.
Les existences, plusieurs formes de spécisme, un spécisme anthropocentrique et un spécisme qui nous conduit à discriminer les animaux entre eux. Pouvez-vous nous expliquer les deux formes de spécisme et nous donner quelques exemples, s'il vous plaît ?
Alors oui, il y a différentes formes de spécisme. Le spécisme, c'est pas seulement un anthropocentrisme, c'est pas seulement une suprématie de l'humain sur l'ensemble des autres animaux, c'est beaucoup ça, hein. Mais c'est aussi une différenciation qui est établie entre différents animaux non humains, où on va leur accorder une considération morale très variable et on va les traiter de manière très différente en fonction de critères qui sont encore une fois arbitraires par rapport à leurs propres intérêts. C'est-à-dire que on va par exemple imaginer que dans une société donnée, à un instant donné, enfermer, mutiler, envoyer à l'abattoir et manger des cochons, c'est tout à fait normal, mais que faire la même chose avec des chiens ou des chats, ce serait absolument scandaleux. Alors, comme je le dis, ça varie beaucoup selon les territoires et les époques, etc. Hein. Il y a certains coins du monde où on mange des chats et des chiens, c'est absolument pas un problème. D'autres, on mange des chevaux, et d'autres où c'est considéré comme... les chevaux sont considérés comme des animaux de compagnie, des compagnons, etc. Et que c'est scandaleux de les consommer. Donc il y a une différenciation qui est faite de manière très arbitraire. Il y a aussi un exemple qu'on peut donner, même de différenciation en fonction du rôle que l'animal occupe dans les sociétés humaines. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple du lapin, il est assez frappant. C'est-à-dire que le lapin, ça peut à la fois être un animal sauvage, ça peut aussi être un animal de laboratoire. Dans ce cas-là, on va expérimenter sur lui, on va lui imposer des tests invasifs et le mener jusqu'à la mort dans beaucoup de cas. Ça peut être aussi un animal de boucherie. Dans ce cas-là, il est élevé, comme c'est le cas à 99% en France, dans des cages grillagées, envoyées à l'abattoir et consommées. Et ça peut être aussi un animal dit de compagnie, donc au même titre qu'un chat et un chien, un animal qu'on va chérir, etc. Donc il y a différentes manifestations du spécisme et de la variation de considération morale qu'on va accorder à certains individus sur des critères arbitraires qui sont complètement décorrélés en fait, de leurs propres intérêts, de leur propre capacité à souffrir, de leur propre capacité à rechercher le plaisir, l'amusement, etc. Donc c'est ce rapport comme ça arbitraire aussi aux autres animaux, quoi.
On parle aussi d'un spécisme direct et d'un spécisme indirect. Que recouvrent ces deux formes de spécisme ?
Alors, si on parle de spécisme pur ou de spécisme attributif, comme l'a défini Valérie Giroux, on va avoir en fait un spécisme pour le spécisme attributif qui va considérer que le critère en soi pour discriminer, c'est pas tellement l'espèce, mais l'espèce par corrélation d'un autre attribut. Donc on va par exemple invoquer l'intelligence ou alors la capacité à construire des fusées, ce genre de choses, pour généraliser, essentialiser et dire que bah, finalement il y a des espèces qui sont inférieures aux autres du fait de leur moindre capacité, au sens large, alors qu'un un spécisme pur, comme on peut le retrouver par exemple dans des croyances théologiques, ça va être de dire que par essence, les autres animaux, ceux qui ne sont pas humains, sont inférieurs, peu importe les capacités. En fait, c'est pas une question de ça, c'est juste dans leur essence, ils sont inférieurs.
Parmi les critiques de l'antispécisme, il y en a une qui revient souvent et qui repose sur une grosse confusion qu'on va démonter ensemble. C'est une critique qui met en avant l'idée, dangereuse pour les personnes qui seraient contre l'antispécisme, que l'antispécisme conduirait à l'affirmation que les humains et les animaux seraient pareils et qu'il faudrait leur accorder les mêmes droits. Qu'est-ce qu'on répond aux personnes qui considèrent que si on pousse l'antispécisme jusqu'au bout, on donnerait le droit de vote aux poules?
Alors ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle un épouvantail argumentatif. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas de personnes antispécistes qui connaissent vraiment la question, qui défendent l'idée qu'il faille donner le droit de vote aux poules. L'idée du refus du spécisme, ce n'est pas de dire qu'il faut traiter tout le monde de manière strictement égale. C'est de dire qu'il faut traiter tout le monde selon ses intérêts propres. En fait, on a la même situation aussi chez les humains. C'est-à-dire que ce n'est pas une discrimination sexiste de dire que, par exemple, il y a des médecins qui sont spécialisés pour le traitement ou la prise en charge de personnes qui ont des utérus, par exemple. Ce n'est pas une discrimination arbitraire. C'est un traitement spécifique, particulier, par rapport à d'autres populations, parce qu'il y a un intérêt particulier à cet endroit-là. On ne revendique pas l'idée de traiter tout le monde de la même façon. Moi, je n'ai pas envie de traiter de la même façon un dauphin et un éléphant. Ça n'a pas de sens. L'idée, c'est de respecter les impératifs biologiques de chaque individu, ses espoirs, ses attentes, son individualité, son agentivité, etc. On est très loin de dire même traitement pour tout le monde. Il faut que ça ait un sens. Je pense que peut-être Anne-Lorraine, en étant dans un sanctuaire, a peut-être particulièrement conscience de l'individualité des animaux, de ses différenciations dans les besoins aussi. Je pense que c'est très, très concret, très palpable dans les sanctuaires, que tous les animaux n'ont pas le même besoin. Et en fait, tous les humains non plus n'ont pas les mêmes besoins. Donc l'idée, c'est de traiter les individus comme ils voudraient être traités en fonction de leurs intérêts.
Oui, effectivement. Et puis ça dépend de leur nature physique. Et puis même au sein d'un groupe d'animaux, si tu prends les poules par exemple, je serais quand même curieuse de savoir pour qui elles voteraient. Mais en ce moment, elles votent plutôt pour les pastèques. Si on prend un groupe de poules, elles ont elles-mêmes dans ce groupe-là pas toutes les mêmes besoins, pas toutes les mêmes centres d'intérêt, pas toutes. C'est parce que ce sont des individus et que on l'observe dans tous les groupes d'animaux. À l'autre ferme, la plupart des différentes espèces vont être réparties parce qu'on a des vaches qui sont des blancs-bleus belges, donc c'est compliqué de les mélanger avec d'autres à cause de leur taille. On observe que les besoins ne sont pas les mêmes, pas seulement au sein d'un groupe moutons, vaches, chèvres, etc., mais à l'intérieur de ce groupe en tant qu'individu.
Alors, pour ma part, je découvre qu'apparemment on traite tous les humains et toutes les humaines de la même manière, puisque je ne savais pas que tous les humains avaient le droit de vote. Il me semble que ce n'est pas le cas pour une bonne partie de la population, si on regarde. Du coup, je ne dirais pas que le propre de l'humain, c'est d'avoir le droit de vote. Du coup, l'argument se réfute déjà juste avec le fait de ne pas correspondre aux faits. Mais au-delà de ça, si on veut creuser un peu plus, déjà les antispécistes ne parlent pas d'égalité entre les espèces, mais d'égale considération des intérêts, donc de considérer qu'on a le même intérêt à ne pas souffrir, quel que soit notre espèce, hein, notre genre, si on veut aller plus loin, toutes les caractéristiques comme ça. À partir du moment où on peut souffrir, on a le même intérêt à ne pas souffrir. Donc je reviens sur le fait que c'était un épouvantail, comme le disait Florence tout à l'heure. Pour aller plus loin encore, oui, effectivement, on n'est pas pour donner le droit de vote aux poules. Par contre, je pense que si on pouvait le faire, ça serait une bonne chose. C'est-à-dire qu'on devrait se soucier de la vie des poules. On devrait, ça devrait faire partie de nos volontés de sonder ce que pensent les poules et d'en faire un objet social, de se dire on doit prendre en considération ce que pensent les poules. Alors, bien sûr que ça ne doit pas se manifester par le droit de vote tel qu'on le connaît, tel qu'on l'entend, mais j'aime bien l'idée de se dire que c'est pas parce qu'on ne peut pas leur donner un droit de vote avec un bulletin, une urne, etc., qu'en fait on doit négliger leurs opinions, leurs préférences, et qu'il y aurait un moyen de les récupérer malgré tout et d'aménager la société un peu plus d'une manière qui leur convienne.
D'ailleurs, des fois, on dit dans les milieux un peu de la cause animale, certains disent qu'on est la voix des sans-voix, effectivement, comme si on ne pouvait pas se pencher sur ce qui pourrait éventuellement nous signifier et qu'on aurait à apprendre, effectivement, en les écoutant, en s'entrant sur eux. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Là, on parle de droit de vote, qui est quelque chose de très spécifique à une population spécifique sur Terre. Hein, ouais, c'est très ciblé. Mais en vérité, si on parle du fait d'exprimer ses opinions et d'exprimer des préférences de manière assez claire, je pense qu'Anne-Lorraine aussi, on a la manifestation quotidienne. Les animaux non humains savent exprimer leurs choix, ont des envies, établissent des projets dans le futur. Et en fait, on peut pas... ça me paraît difficile d'avoir accès aujourd'hui à des vidéos d'élevage et d'abattoir et de se dire que les animaux n'expriment pas ce qu'ils veulent ou ne veulent pas. Et je pense que quand on regarde les images qui sont tournées par L214, les enquêtes qu'on peut voir des associations, on voit les animaux qui se débattent, qui cherchent à fuir, qui crient, etc. C'est un bulletin de vote, en vrai, de manière alors un peu abstraite pour nous, mais en fait, ils expriment des préférences, des revendications, ils se révoltent, en vrai. Mais les lieux d'exploitation, les lieux de mise à mort sont des endroits qui volontairement ont été écartés des villes, des grandes agglomérations. Ce sont des endroits qui sont fermés, qui sont difficiles d'accès. D'ailleurs, c'est plutôt des lanceurs et des lanceuses d'alerte qui font le travail. Il y a un refus d'avoir des caméras, d'avoir de la transparence. Il y a une omerta globale et personne ne veut voir ça. Donc, c'est pas pour zéro raison, c'est que c'est très visible que les animaux ne veulent pas qu'on leur fasse ça. Donc, c'est aussi une manière de s'exprimer.
Sur la table ronde précédente, c'était Émilie Dardenne qui parlait de résistance, c'est-à-dire que les animaux résistent, effectivement.
Oui, bien sûr.
Alors, l'antispécisme pose donc l'idée que l'appartenance à une espèce n'est pas un critère pertinent de considération morale. La sentience est le critère pertinent de considération morale mise en avant par les antispécistes. Comment définissez-vous la sentience? En quoi est-elle un critère pertinent de considération morale? Comment objective-t-on le fait qu'un individu est sentient et quels animaux sont actuellement considérés comme sentients? Alors ça fait beaucoup de questions, vous pouvez prendre le temps d'y répondre tranquillement.
Juste pour lever un petit doute et apporter une petite nuance, c'est pas seulement les antispécistes qui pensent que la considération morale peut être établie sur le critère d'espèce, la capacité à souffrir notamment, c'est quelque chose qui est...
Sur le critère de sentience, la vie espèce.
Pardon, ouais, je sais, mais peut-être que j'ai... Pardon, ouais. Donc oui, c'est pas une pensée strictement antispéciste de penser que c'est le critère de sentience qui compte. Je pense notamment à cette phrase assez connue de Jeremy Bentham, qui est un philosophe utilitariste, qui énonçait dès le 18e, avec cette phrase qui est assez célèbre, la question n'est pas peuvent-ils parler ou peuvent-ils raisonner, mais peuvent-ils souffrir. Et c'était pas nommé sentientisme à cette époque-là, mais en fait c'est strictement ça, c'est cette capacité à ressentir les choses subjectives et à ressentir un préjudice qui doit établir la considération morale qu'on accorde à un individu. Donc ça, c'était pour juste nuancer le fait que c'est pas seulement les antispécistes, en fait. C'est une pensée en fait assez répandue aussi, que si on est capable de souffrir, il faut être bien traité, même pour soi, on a envie que ça se passe comme ça, en vérité. Je pense que les autres questions méritent d'être posées, peut-être.
C'est comment vous définissez la sentience, peut-être, par rapport à... pour aider à comprendre ceux qui ne connaîtraient pas, forcément. Et parmi les auditeurs, auditrices, je pense qu'il y en a beaucoup.
Alors, moi, je voudrais juste revenir sur la question d'avant, si c'est possible, vite fait.
Pas de souci.
Et on pourra enchaîner avec l'autre après. Mais je pense que si on creuse, en fait, quand on fait parler les gens, tout le monde, en vrai, est convaincu par le sentientisme. Tout le monde est sentientiste, ne serait-ce que pour lui-même, quoi. Il y a personne qui souhaite augmenter ses souffrances, baisser son confort, vivre des expériences négatives. Quand on vit soi-même des expériences négatives parce qu'on a l'impression que ça va, enfin, que c'est intéressant pour nous, c'est toujours parce que soit ça va nous procurer plus d'expérience positive, soit parce qu'on pense que ça va nous procurer plus d'expérience positive, soit parce que l'idée de cette chose, on se projette en fait sur une diminution de notre souffrance ou une augmentation de notre confort. Et il y a aussi le fait que tous les antispécistes ne sont pas sentientistes, et même si c'était le cas, en fait, c'est deux choses qui sont quand même dissociées, dans le sens où l'antispécisme, c'est une anti-proposition, c'est-à-dire qu'on dit le critère d'espèce n'est pas pertinent, alors que le sentientisme, c'est une proposition, c'est dire le critère de sentience est pertinent pour indexer une considération morale. Donc oui, effectivement, quand on est sentientiste, ça va être évident, ça va être logique d'être antispéciste. Beaucoup d'antispécistes sont sentientistes, très certainement parce qu'en vrai, ils sont antispécistes du fait d'être sentientistes, mais tous les antispécistes ne sont pas sentientistes. On pourrait très bien avoir des antispécistes qui sont biocentristes, à côté par exemple, qui considèrent que ce qui compte, c'est le vivant, mais considèrent quand même que le critère d'espèce n'est pas pertinent.
Effectivement, je pense qu'à ce stade, c'est important de définir ce qu'on entend par sentience. Donc le mot sentience est un terme qui est encore assez peu connu, particulièrement un peu plus dans les pays anglophones, mais particulièrement en France, il est arrivé dans les dictionnaires courants en 2020, donc c'est quand même très récent. Le terme, pour le définir simplement, il décrit la capacité à vivre de façon subjective cette expérience de vie, donc de vivre sa vie à la première personne, en fait, d'être un sujet de ses propres expériences, et plus particulièrement de vivre des expériences avec une teneur positive ou négative, c'est-à-dire de vivre des expériences qui sont agréables ou désagréables, donc soit de la joie, du bien-être, de la satiété, du bonheur, etc., soit de la souffrance, de la douleur, de l'ennui, de la solitude, etc. Alors tous les individus sentients peuvent pas forcément ressentir des émotions forcément très complexes, hein, comme la culpabilité ou ce genre d'émotions, mais en tout cas c'est le fait de pouvoir vraiment vivre sa vie à la première personne en tant que sujet. Donc ce que Orlando tout à l'heure nommait sentientisme, c'est le projet philosophique qui découle de la prise en considération de cette capacité à souffrir, de la sentience, et qui énonce qu'il faut prendre en compte les intérêts de tous les individus sentients, et que la sentience est un critère nécessaire pour être l'objet de considération morale et suffisant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sentient, il faut prendre en compte les intérêts de cet individu-là. Voilà pour un tour d'horizon très très rapide. J'invite à aller sur le site, je profite de l'occasion, sur le site sentience.pm qui a été justement développé par le projet Méduse, qui permet de faire un tour d'horizon de cette notion, de ces notions en fait de sentience et de sentientisme, en proposant différentes ressources. Ça va de la page Wikipédia à la fiche de synthèse jusqu'aux études scientifiques, aux rapports scientifiques très complexes en anglais. Donc il y a différents niveaux d'accessibilité et de complexité. Sentience.pm, voilà, c'est une bonne ressource pour aller plus loin sur cette notion.
La question qui était la suivante que je vais rappeler, c'était comment on objectif qu'un être vivant, un animal est sentient. Parce que peut-être que pour beaucoup, c'est assez évident de dire un chien, une vache, etc., il est sentient. Peut-être que pour des insectes, par exemple, ça serait moins évident. Comment on peut l'objectiver ?
Alors, on a différents critères qui sont pris en compte dans la recherche scientifique. Alors, il y a des choses, des intuitions et des observations très, très concrètes et très terre-à-terre qu'on peut faire. Je veux dire, personne, je pense, ne doute de la sentience du chien avec qui on vit. Je pense que si Anne Lorraine, elle n'a aucun doute sur la sentience des autres animaux qui vivent avec elle. Mais en fait, il y a quand même de la recherche sur cette question-là. Et on a différentes études qui sont menées avec différents indices qui sont recherchés et observés pour déduire cette capacité, inférer cette capacité à ressentir les choses subjectivement. Il y a des indices comportementaux, des indices biologiques et des indices évolutionnistes. Dans les indices comportementaux, on a des réactions, des attitudes, par exemple, de fuite par rapport à un stimulus nociceptif, douloureux. C'est-à-dire, on observe que l'individu fuit la source de souffrance Même si ça aurait pu avoir un intérêt pour trouver de la nourriture, pour quelque chose, et tout, il va quand même s'éloigner de la source de souffrance. Ou alors il va se diriger vers des antalgiques, c'est-à-dire qu'il va chercher, s'il sait qu'il y a une substance qui réduit sa douleur, il va chercher à y aller, il va chercher à réduire sa douleur. C'est des indices forts quand même de « je peux ressentir les choses négativement en tant qu'individu ». Il y a des indices biologiques aussi, c'est-à-dire l'équipement biologique, avoir un système nerveux centralisé, un cerveau, donc un système nerveux, des nocicepteurs, etc., qui sont susceptibles de traiter l'information douloureuse et la transformer en expérience vécue de la douleur. C'est des mécanismes qui servent à éviter la dégradation de son intégrité physique, etc. Et il y a aussi des indices évolutionnistes dans la mesure où on se dit que si il y a un avantage évolutif à avoir développé la sentience parce que ça permet d'éviter justement des dangers ou diverses atteintes à l'intégrité physique, ça a pu avoir un avantage évolutif de développer une aversion à la douleur, une aversion à la souffrance en général. Et on se base aussi sur les ancêtres. Si il y a deux individus qui sont, il y a un individu qui est sentient, ses ascendants vont probablement être sentients aussi, etc. Donc tous ces critères-là, ils sont observés dans la recherche, souvent malheureusement au prix d'expériences douloureuses, quoi, pour le coup. Voilà. Il faut le signaler quand même. Et il y a effectivement de plus en plus de recherches qui montrent que même des organismes, des animaux dont on pensait qu'ils étaient peut-être dépourvus de ces comportements ou de ces équipements biologiques, sont susceptibles de ressentir des choses subjectivement. Et c'est le cas assez récemment chez les insectes. Effectivement, on a découvert que il y a un certain nombre d'insectes qui correspondent, qui cochent en fait certains critères de sentience. On peut changer ses comportements aussi quand on sait ça, parce qu'on a tendance à se dire les insectes sont tout petits, ils peuvent probablement pas souffrir, ou il y a des préconceptions, des préjugés comme ça en fait, qui sont vraiment une image qu'on a nous, mais qui correspondent pas à la réalité. C'est quand même pas mal remis en question. Voilà.
Donc on vient de définir les contours de ce qu'est la sentience, une notion très subtile à distinguer de la conscience, de la sensibilité, une notion aussi relativement nouvelle qui nécessite beaucoup de médiation et de vulgarisation pour la faire connaître. Et justement, ma question s'adresse à Anne-Lorraine. En quoi les refuges comme l'autre ferme peuvent contribuer à nous faire prendre conscience de la sentience des animaux, notamment les animaux dits de ferme, les animaux sensibles qui ont des vécus émotionnels et relationnels, alors qu'ils sont souvent soumis dans nos sociétés à des conditions de vie déplorables aboutissant à une mort prématurée.
Alors, un refuge comme l'autre ferme, qui est un refuge partiellement, très partiellement ouvert, c'est-à-dire qu'on y accueille au compte-gouttes du public, parce qu'il ne s'agit pas de déranger les animaux. Les animaux qu'on accueille ont subi pour la quasi-totalité des violences. On a des animaux saisis pour mauvais traitement. Donc quand tu considères que l'abattoir n'est pas considéré comme un mauvais traitement, ils ont vraiment subi des violences aggravées. On a des animaux qui nous arrivent très malades, etc. Donc il y a un long travail à faire avec eux de soins, de remise en confiance. Comme on tient beaucoup à l'autre ferme, est-ce que à ne pas toucher à leur individualité, donc on ne les incite à rien. On ne va pas les encourager à venir chercher le contact avec les humains. On est disponible pour ça. S'ils veulent venir vers nous et nous utiliser comme grattoir, il n'y a pas de problème. Mais on ne va rien faire pour encourager ce type de comportement, parce que ce qui nous importe, c'est de respecter l'individu qui est là. On observe des comportements qui changent quand le troupeau de moutons qui a subi des violences nous arrive. Quand ils sortent du camion, ils sont terrorisés, ils ne veulent pas nous voir. C'est-à-dire quand on rentre dans la prairie, ils partent le plus loin possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que les premières semaines, tous les jours, plusieurs fois par jour, je marchais dans la prairie, mais très loin d'eux. J'essayais d'apporter de l'eau, du foin, des grains quand ils me voyaient de loin, mais qu'ils me voyaient déposer aux abords de la bergerie ce dont ils avaient besoin pour leur alimentation, etc. Et je partais. Et peu à peu, ils sont mis à m'observer, à partir moins loin quand je rentrais dans la prairie. Et puis un jour, deux premiers moutons, les plus vieux du troupeau, sont venus. Et en ouvrant le refuge avec vraiment une grande parcimonie au public, puisque l'autre ferme est un lieu d'abord d'accueil de ces animaux qui ont subi la violence, mais aussi un lieu de sensibilisation et d'éducation, et ça c'est une partie très importante. On n'utilise pas le vocabulaire à l'autre ferme, antispéciste, sentience, etc., à dessein. On est par définition un lieu antispéciste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'objectif en ouvrant notre lieu, c'est que des gens qui ne sont pas au courant de ces notions-là, des gens qui ne sont pas véganes, des gens qui ne s'interrogent pas sur ça, c'est ce public-là en priorité qu'on souhaite faire entrer à l'autre ferme, en espérant modestement poser des petites graines par l'observation. Et les réactions qu'on a sont toujours très surprenantes, puisque en leur permettant d'observer des animaux auxquels on n'a rien appris, c'est pas une ferme pédagogique. Une ferme pédagogique, on demande aux animaux d'être mignons. Nous, on leur demande rien, et même pas d'être mignons. Ils ont le droit de n'être pas mignons, ils ont le droit de nous haïr, ils ont le droit d'essayer de nous mettre des coups de corne dans les genoux. On apprécie peu, mais ils auront le même traitement auquel ils ont droit de respect, etc. Donc, on permet aux gens d'observer ces animaux dans des conditions qui sont propres à libérer l'individualité de chacune et de chacun. Et les réactions du public qu'on a sont des réactions de grande surprise, de constater que dans le groupe de moutons, il y a les meilleurs potes, de constater que dans le groupe de moutons, il y a des différents comportements, de constater que le groupe de moutons, quand tu t'approches de la clôture, ne va pas forcément partir en courant, parce qu'il y a tout ce langage, tous ces préjugés très négatifs à l'endroit des moutons, et comme de tous les animaux qu'on exploite, avoir un comportement de mouton, c'est très péjoratif. À l'autre ferme, ils ne se barrent pas en courant, les moutons, parce qu'ils ont compris que plus personne ne leur fait ni peur, ni du mal, etc. On a la même chose avec les petites poules qui sortent d'élevage intensif, on a la même chose avec les lapins, on a la même chose avec tous les groupes d'animaux. Des comportements s'expriment qui ne sont pas ceux attendus par notre éducation, par nos préjugés. Et c'est ça qu'on essaye de permettre aux gens d'observer.
Il y a des réactions peut-être par rapport à ce que Anne-Lorraine a partagé avec nous ?
Oui, ce que dit Anne-Lorraine sur les préconceptions, les préjugés de personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées, mais même en fait du grand public. On a cette image des animaux en tant que groupe indifférencié d'une manière générale. D'ailleurs, même le terme « animaux » regroupe une variété, une immensité d'expériences, de vécu, qui quand même, c'est très réducteur de parler juste d'animaux. Mais c'est vrai que cette conception du groupe de moutons comme un groupe de clones indifférenciés qui obéissent à des instincts préconçus, qui sont un peu des machines en fin de compte, c'est une conception spéciste qui est quand même encore bien ancrée, alors qu'effectivement il y a un des rôles effectivement des sanctuaires, mais aussi un des rôles de l'éducation justement sur la sentience, c'est de dire les animaux sont des individus, des sujets qui vivent leur vie en tant qu'individus, ils ont des expériences personnelles. Des attentes personnelles. Et ça, c'est effectivement une des plus grandes remises en question de l'ordre spéciste du monde qu'on puisse faire, c'est de replacer les animaux en tant qu'individus. Je fais une petite parenthèse pour parler d'un livre que j'aime beaucoup et qui, je pense, est très utile à cet égard. C'est une bande dessinée qui a été éditée aux éditions La Plage de Sébastien Moreau et Leïla Benabid, qui s'appelle Les cerveaux de la ferme et qui est une BD fabuleuse sur la cognition, les émotions des animaux dits de ferme, qui est vraiment exceptionnelle. Enfin, on apprend forcément des choses en lisant cette bande dessinée. Moi, je la conseille vraiment à tout le monde. Et elle replace vraiment justement la personnalité, les préférences, même botaniques, culinaires, des animaux en tant qu'individus. Où il y en a qui aiment plutôt cette herbe-là. Enfin bon, c'est vraiment, je pense que ça a un rôle important dans le fait de resituer les animaux en tant que sujet politique aussi.
Si je peux ajouter une chose, c'est que ce qu'on découvre aussi, c'est qu'ils nous comprennent beaucoup, beaucoup mieux que nous ne les comprenons. C'est en fait nous qui sommes complètement ignorants, assis sur notre arrogance et nos préjugés. Mais en vivant avec eux au quotidien, nous avons à apprendre leur langage, parce qu'eux apprennent notre langage, eux nous différencient, eux comprennent notre vocabulaire, alors que nous ne comprenons pas le leur. Quand j'appelle une poule, quand j'appelle la poule Brigitte, je dis Brigitte, et Brigitte elle arrive, je sais grâce aux éthologues que les poules nous nomment et nous différencient, Moi, je ne sais pas quand Brigitte, elle m'appelle. Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est nous qui devons être remis à notre place. Ça ne veut pas dire de forcément se faire du mal, etc. C'est juste que on est à la naissance d'une source d'apprentissage passionnante, infinie. Et on doit accepter le fait que nous ne savons pas tout.
Vous aviez parlé tout à l'heure de projet sentientiste. Concrètement, quelles sont les visées du projet sentientiste, peut-être sur un niveau militant, un niveau politique, un niveau éducatif?
Alors, ça peut aller très loin. Du coup, la question, c'est à quelle échéance? Je pense qu'à court terme, il y a déjà un objectif de juste réaliser qu'en fait, la sentience, c'est quelque chose, ça existe, c'est quelque chose de défini, une littérature scientifique dessus. Il y a des chercheurs, chercheuses qui ont travaillé dessus, qui travaillent dessus, que ce soit en biologie, en éthique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent et pourtant, c'est très peu connu. Or, peut-être que si on avait la conscience de ce que c'est, si on replaçait ça au centre de nos réflexions sur la manière dont la société est organisée, bah, ça changerait probablement beaucoup de choses, parce que c'est aussi une sorte d'axe convergent sur lequel on peut rentrer en cohérence avec toutes les luttes, en se disant, bah oui, si je défends les droits des autres humains, c'est aussi parce qu'en fait, c'est des êtres sentients, c'est-à-dire que c'est un point d'unification pour commencer à faire société. Et sans ça, ça va être très compliqué de se débarrasser des oppressions de manière général. Donc il y a un premier enjeu qui est de comprendre ce qu'est la sentience et réfléchir au sentientisme avec peut-être l'idée que ça serait peut-être une direction commune qu'on pourrait prendre. Ensuite, dans un second temps, il y a bien sûr changer la base matérielle avec le fait d'avoir un cadre législatif qui puisse changer les droits qu'on peut avoir, protéger du coup les intérêts des êtres sentients, avoir un accès aussi à... c'est aussi compliqué de changer sa position par rapport aux autres animaux, c'est aussi parce qu'à côté, c'est très coûteux socialement, c'est très coûteux dans sa vie de tous les jours, et peut-être que si on avait un accès aux alternatives qui étaient facilitées, alors effectivement l'émergence d'un monde sentientiste serait bien plus facile. On voit dans le dernier rapport que L214 a sorti avec leur nouvelle campagne le sauvetage du siècle, merci, qu'il y a des vrais rapports de force à cet endroit-là qui sont complètement gagnés par les lobbies de la viande et l'industrie de l'exploitation animale de manière générale, avec qui vont jusqu'à carrément presque vider les rayons, surexposer les rayons avec des produits carnés, des produits d'origine animale, et de laisser très peu de place aux alternatives. Peut-être que si on commençait déjà par revisibiliser à cet endroit-là, remontrer que ça existe, dédiaboliser, les gens changeraient plus facilement de comportement. Il y a une pression sociale très très forte, et cette pression sociale, elle est construite socialement, elle est construite par des intérêts économiques aussi, et il y a des lois derrière qui fichent tout ça.
Orlando, tu as partiellement répondu déjà à la question que je souhaitais te poser, donc je vais la reformuler et puis je vais l'adresser à tout le monde, en lien vraiment avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut considérer l'antispécisme comme une lutte sociale?
Alors, oui. Je vois mal en fait comment on pourrait ne pas considérer l'antispécisme comme une lutte sociale. Je vais peut-être essayer d'apporter un peu de nuance. L'antispécisme, si on considère que c'est juste une position idéologique, donc une contre-proposition, ça n'est pas une lutte en soi, c'est juste un positionnement contre une idéologie. Ça va être très difficile par contre de dissocier cette philosophie d'une volonté politique et donc forcément du mouvement qui l'accompagne. Mais moi, quand je parle d'antispécisme, je fais la distinction entre l'idéologie antispéciste, ou la contre-idéologie antispéciste, et le mouvement antispéciste. Et bon, il se trouve que les valeurs qui sont défendues dans les mouvements antispécistes, que le projet politique qu'il y a, coche toutes les cases de la justice sociale. En fait, à partir du moment où le spécisme est construit comme les autres oppressions, c'est-à-dire que c'est la domination d'une partie de la population sur une autre avec des privilèges, avec une oppression qui est formalisée de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un cadre législatif, il y a une culture, il y a des instruments qui maintiennent donc cette partie de la population sous domination. Ça peut être la réification des corps, ça peut être la négation des intérêts, hein, tout le carcan de modalités oppressives existe avec le spécisme. En fait, je ne vois aucun argument qui nous permettrait de rejeter l'antispécisme en tant que lutte. Malgré les arguments qui peuvent être opposés des fois, par exemple le fait que les animaux ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, oui, il y a des humains qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes non plus, hein, des groupes d'humains qui sont opprimés et dont les alliés sont obligés de prendre la parole pour eux. Je parle par exemple des enfants en bas âge ou des personnes qui sont lourdement handicapées. Est-ce que pour autant, on va estimer que leur lutte n'est pas légitime? Pour moi, il n'y a aucun argument solide qui permet de justifier que l'antispécisme n'est pas une lutte sociale, et tous les arguments qui sont avancés vont nécessairement exclure des luttes humaines, et je trouve ce discours, enfin, les arguments qui sont donnés, extrêmement dangereux, ne serait-ce que pour les humains aussi.
La démonstration est en fait que l'antispécisme est une lutte sociale. Qu'est-ce qui distingue cette lutte sociale des autres par rapport à l'antiracisme, l'antivalidisme, l'anticapitalisme, etc. Hormis le fait, ce qu'on a déjà évoqué, qu'en effet, les populations que l'on souhaite défendre à travers cette lutte n'ont pas les possibilités, les ressources pour se défendre elles-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécifique à l'antispécisme en tant que lutte sociale ?
Je pense que, bon, déjà, il y a quelque chose de très spécifique, c'est le fait qu'on ait besoin de réaffirmer que c'est une lutte sociale, parce que c'est vrai que il y a quelque chose de très particulier avec l'antispécisme, justement dans la mesure où les victimes j'ai pas envie de dire ne manifestent pas elles-mêmes, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, elles manifestent elles-mêmes, mais dans des lieux clos, volontairement clos et opaques, et leurs révoltes sont masquées, réprimées. Ça va même jusqu'à la génétique, en fait, où la sélection génétique fait que les animaux sont déjà contraints par leur propre corps, vieillissent mal, ne sont pas faits pour vieillir de toute façon, et sont faits pour être dociles, calmes, etc. Puis qu'il y a une résignation face à la domination et à la violence, hein, subie en permanence, qui fait que la domination amène la résignation. Donc, je dirais pas qu'ils manifestent pas, mais en tout cas, les animaux non humains ne peuvent pas s'organiser politiquement au sens où les populations humaines opprimées s'organisent, notamment en signant des pétitions, en manifestant, en tentant de changer via la vie parlementaire les lois, etc. Pour moi, c'est un facteur aggravant dans leur oppression. Ça rejoint ce que vient de dire Orlando, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être un critère qui nous amène à dire les animaux, je les défendrai quand ils iront en manif, parce que ça, je l'ai entendu. Pour moi, c'est catastrophique. Pour moi, c'est au contraire une population qui ne peut pas défendre ses intérêts par elle-même, avec sa propre voix et en étant entendable. On doit la protéger encore plus et peut-être prêter une attention toute particulière à ses intérêts. Donc il y a cette particularité quand même, effectivement, que la lutte n'est pas menée par les concernés directement, et qu'on est obligé de parler pour les animaux non humains en tant que dominants, en tant que privilégiés dans le système spéciste. Et je pense qu'il y a quand même une spécificité aussi sur le caractère massif de ce que disait Orlando encore tout à l'heure sur le contexte matériel dans lequel tout ça s'inscrit, c'est-à-dire que la domination exercée sur les autres animaux, leur exploitation, est une composante majeure, banale, omniprésente de la vie humaine, et que toutes les sociétés humaines se sont construites en fait sur cette domination et sur cette consommation d'autres animaux. Et que donc il y a un cadre matériel qui est quand même très particulier. Et moi, j'observe dans mes discussions que j'ai des réticences à se dire antispéciste de la part de personnes qui auraient envie de lutter en fait pour défendre les intérêts des autres animaux, mais qui se disent oui, mais si je deviens antispéciste, alors je dois être végane. Mais si je dois être végane, je sais pas comment faire. Je sais pas comment changer mon fromage et tout ça. Et qu'est-ce qu'elle va dire mamie dimanche au repas de famille? Elle va avoir l'impression que je ne suis plus la même et que je sacrifie notre identité familiale, etc. Donc il y a beaucoup effectivement de rejet social, de pression même dans le milieu médical aussi, hein, c'est pas du tout acquis. Il faudrait aussi un changement dans la formation des médecins, dans les programmes de nutrition, de santé, etc. Et tous ces facteurs matériels font que changer d'idée par rapport au rapport qu'on a aux autres animaux implique de changer aussi ses comportements d'une manière qui est gigantesque. Hein, dans sa vie, il ne faut pas se leurrer. Moi, comme beaucoup de véganes, je suis végane depuis 10 ans, on se rend compte que c'est plus simple que ce qu'on pensait d'être végane une fois qu'on est végane, bon, généralement. Voilà. Mais c'est quand même un pas à franchir. Il y a tout à réorganiser, les assiettes, les vêtements, etc. Et ça peut être, on peut se sentir un peu débordé au début. Surtout quand on n'a pas de soutien autour de soi. Moi, je suis devenue d'abord végétarienne, puis végane, dans un cercle familial, amical et professionnel, où il n'y avait même personne qui était juste flexitarien. Enfin, c'était vraiment, j'étais la seule. Bon. C'était pas très confortable, honnêtement. Donc ça a un peu évolué quand même depuis, ça a un peu changé dans le bon sens, mais il y a cette difficulté à embrasser quoi, le changement matériel, et à un niveau je pense qui est une caractéristique quand même assez forte par rapport à l'antispécisme.
Oui, du coup je pense que c'est peut-être la plus grande particularité, le fait qu'il y ait vraiment un mode de vie qui soit particulièrement associé, tellement l'oppression des animaux et des autres animaux est ancrée dans notre monde et se trouve dans tous ces aspects en fait. On se dit pas que quand on adhère aux positions féministes ou antiracistes, en fait il y a un mode de vie antiraciste ou féministe, on se dit pas d'un coup bah moi j'ai arrêté d'opprimer les femmes ou j'ai arrêté de faire des blagues racistes. C'est quelque chose qui n'a pas un mot, qui n'est pas, qui ne se retrouve pas à chaque fois qu'on s'assied à table ou quoi. Donc il y a bien des modes de vie, si on veut en parler pour les autres luttes, mais c'est pas des modes de vie aussi formalisés, aussi présents, aussi figés. Il y a des comportements qu'on va devoir modifier, mais on les a pas nommés, on n'a pas toute une liste de ce qu'il faut faire dedans, tellement ça serait présent dans notre consommation. Mais sinon, des spécificités, c'est pas si strictes sur l'antispécisme qui vraiment la séparer des autres luttes. Moi, j'en vois pas vraiment. Effectivement, tout ce que Florence a cité, c'est effectivement des choses sur lesquelles il y a des points d'attention particuliers pour l'antispécisme. Mais en réalité, c'est aussi des choses qu'on va retrouver ailleurs. Le fait, j'en parlais de pas pouvoir se défendre soi-même, c'est pas propre aux autres animaux. Il y a aussi des humains qui sont dans ce cas-là. Donc le fait d'être une lutte d'alliés, ça n'est pas propre à l'antispécisme. C'est malheureusement une de ces conditions, mais c'est pas les seuls. Par contre, il y a quelque chose, je pense, qui est propre à l'antispécisme, c'est la négligence de cette lutte et des intérêts des opprimés en proportion du nombre d'individus concernés et de l'intensité des souffrances qu'ils subissent. Parce que je pense pas qu'il y ait effectivement beaucoup de luttes dans lesquelles il y ait autant de négligence, parce que là, enfin, on parle de quand même milliers de milliards d'individus avec des souffrances qui sont indescriptibles, tellement elles sont atroces, des choses dans lesquelles on peut même pas se projeter. Et pourtant, ça représente une très faible proportion de l'action de lutte de manière générale dans la justice sociale. Donc il y a l'antispécisme particulièrement délaissé par rapport aux autres luttes, quoi qu'on en pense. Et je pense que l'autre spécificité, ça rejoint ce que disait Florence, c'est l'hégémonie culturelle, et qui justifie du coup qu'en fait la lutte soit autant délaissée, hein, c'est que le spécisme est particulièrement acceptable, et se dire antispéciste, c'est quelque chose qui est encore très difficilement entendable aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur le fait que avec l'autre ferme, vous ne parlez pas de scientisme, de science ou d'antispécisme, parce qu'en fait on en est là, quoi. C'est-à-dire que quand on a un public qui est non initié, leur parler directement d'antispécisme, ça peut être très, très compliqué, et c'est logique d'avoir des stratégies qui vont absolument éviter ce vocabulaire-là.
Alors, on est dans un milieu ultra rural, une terre d'élevage, et les gens que j'essaye de toucher sont aussi mon voisinage, aussi des éleveurs, etc. Je suis une femme, je suis parisienne, je suis végane. Donc, autant te dire que quand j'arrive, ils veulent ma mort. Le but, c'est de pouvoir établir un dialogue avec eux, de pouvoir se dire, on n'a pas la même vision des choses, mais on peut quand même être de bons voisins. Ça, ils ne peuvent pas dire non, ils sont trop polissés pour pouvoir dire non. Et avec certains d'entre eux, de fait, j'arrive à avoir vraiment des discussions constructives. Et même avec un éleveur de bovins, qui maintenant, quand il vient faire le foin à la ferme, fait attention parce qu'on a un nid de faisans. Donc il a fait hyper hyper gaffe pour passer très très loin, pas déranger, etc. Donc ça achemine. Le problème, il est social, sociétal et aussi éminemment culturel. Il ne faut pas oublier que dans un pays comme le nôtre, la viande, c'est aussi un acquis social. et que cet acquis social, alors qu'on en retire tellement des acquis sociaux, c'est comme un peu un des derniers bastions que les gens veulent protéger. Et le fait de ne pas employer un vocabulaire que des gens dans ces milieux-là ne connaissent, ils connaissent pas le nom. C'est comme quand on donne des cours de cuisine à l'autre ferme. Je n'utilise pas d'ingrédients qu'ils ne connaissent pas. Parce que si dans ta liste d'ingrédients, t'as 5 trucs, tu sais même pas ce que c'est ni à quoi ça ressemble, c'est foutu.
Tu n'utilises pas de liquid smoke?
Non, alors j'en ai pour moi. Mais même le agar-agar, par exemple, je regarde qu'est-ce qu'ils peuvent trouver là où ils font leurs courses, c'est-à-dire chez le gros supermarché du coin. Et je regarde qu'est-ce qui est disponible dans ces rayons-là et comment on peut cuisiner. Mais je pense qu'on a tout à gagner à faire, nous aussi, en restant intègres dans nos convictions. Je pense qu'on a tout à gagner à aussi tendre la main, faire des efforts, parce que la lutte est trop grave et trop importante pour qu'on puisse faire l'économie de cette main tendue et de se mettre au niveau. Ça ne nous empêche pas de développer ces concepts qui sont éminemment importants.
Oui, à ce sujet-là, je pense que je suis vraiment d'accord avec ce que vient de dire Anne-Lorraine, à savoir que je pense que c'est important de ne pas perdre de vue la réalité matérielle des personnes, les réalités culturelles, les réalités liées à la précarité, au manque de temps aussi pour s'informer. Peut-être que, même pas peut-être, c'est sûr que dans le militantisme vegan et antispéciste, il y a eu ces écueils, et il y a encore ces écueils, de relativiser la difficulté que ça peut représenter, notamment pour des populations qui sont déjà marginalisées, qui sont déjà en situation de survie, qui sont déjà discriminées, etc. C'est pas aussi simple que ça. Et il y a aussi autre chose à prendre en compte, à mon sens, ça rejoint aussi ce que tu disais, Anne-Lorraine, c'est que la notion d'humanité, elle a dû être réclamée par des groupes humains, et elle doit encore l'être aujourd'hui. L'appartenance au groupe humanité n'est pas acquise même pour les humains, en fait, pour certains groupes humains en tout cas. Et on ne peut pas nier ça, il faut, je pense, le prendre en compte. Je vais citer un article qui a été publié traduit dans L'Amorce, revue contre le spécisme dont je suis coéditrice. C'est un article de Will Kimlicka qui s'appelle « Pourquoi les animalistes sont-ils toujours orphelins de la gauche ?» et qui explique quels sont les critères historiques, les raisons historiques font que, oui, historiquement, d'autres luttes sociales, on peut embrasser la question animaliste ou antispéciste, et notamment évoquer cette idée qu'il y a des populations humaines qui ont été obligées de revendiquer leur humanité et par contraste avec l'animalité. Et encore aujourd'hui, on en a des manifestations avec l'actualité internationale. Il y a certains groupes, certaines populations dans le monde qui sont animalisées. Le gouvernement d'extrême droite israélien a dit il y a quelques mois, nous avons affaire à des animaux humains, en parlant des populations palestiniennes. Et quand on commence à caractériser certaines populations en les nommant animaux, eh bien, ça justifie des massacres, ça justifie des génocides, des souffrances extrêmes. Et c'est une des raisons pour lesquelles les populations opprimées, y compris humaines, ont eu à se détacher de l'animalité et à rejeter aussi la question animale. Donc je pense que c'est très important d'avoir en tête ces éléments et oui, de ne pas arriver avec ces gros sabots, effectivement, et de se mettre à la place de l'autre aussi pour avoir ces perspectives-là en tête, quoi.
Ça va permettre aussi de pouvoir établir le dialogue, en fait. Si on ne peut pas se parler, on n'arrivera à rien. Donc le but à l'endroit où je suis du refuge, l'autre ferme, c'est de pouvoir établir un dialogue et d'essayer de faire qu'il soit constructif, bienveillant. Là, on commence à faire des petits événements pour inviter les gens du secteur à venir goûter des choses. Donc là, on va faire un barbecue vegan. Voilà. En leur disant juste, venez. Mais comme ça, si c'est pas bon, au moins, vous saurez pourquoi. Et de le faire avec humour. Et on fait un petit bal. Mais d'essayer, il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'on les fasse venir vers nous. Il faut que nous, on soit les personnes bienveillantes.
Mon cher Jérémy, il est 17h54. Que fait-on de la fin de du temps qui nous est alloué? Peut-être qu'on se tourne vers l'audience, si vous avez une question à adresser à nos intervenants. Forcément, là, comme ça, je vous prends peut-être un peu de cours. Réfléchissez à votre question, ça me permettra de donner les références qui vous permettront de retrouver ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, l'autre ferme en Charente, comme n'importe quel refuge, a besoin de votre soutien. parlez-en autour de vous. Si vous avez de quoi donner, soutenir l'organisation, vous pouvez y aller. Et puis, sentience.pm pour retrouver toutes les notions qu'on a évoquées, notamment sur la sentience, à distinguer de l'antispécisme, vous l'avez compris. Et PM pour Projet Méduse, Méduse avec un S. Et donc le Projet Méduse est un collectif dans lequel il y a plein de créatrices, des artistes, des médiateurs et médiatrices, tout ça. Donc vous pouvez aussi retrouver sur le site les projets individuels des membres de ce collectif.
Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on... Oui ?
Le micro circule.
Merci beaucoup. C'est une petite question pour savoir si vous pouviez nous expliquer la différence entre l'antispécisme et ce qu'on appelle les philosophies du vivant qui sont beaucoup plus médiatisées aujourd'hui, qui sont, je pense, importantes à distinguer en 2 minutes ou 3 minutes.
Oui, alors, je ne sais pas si je vais vraiment... Si je suis de mieux placé, si je vais réussir à rentrer dans le temps. Comme on disait tout à l'heure, l'antispécisme, c'est du coup une antiproposition, c'est-à-dire on ne prend pas ce critère-là pour décider de comment traiter les individus, donc on ne prend pas le critère d'espèce. On va avoir beaucoup d'idéologies, notamment environnementalistes, qui vont utiliser d'autres critères pour... l'indexation d'une considération morale. Donc le critère qu'on prend pour dire comment on doit traiter les individus, comment on doit les prendre en compte leurs intérêts, du coup au sens très large, puisque donc il y a des mouvements biocentristes qui vont considérer que ce qui compte c'est le fait d'être vivant, qui vont mettre au centre de leurs préoccupations le critère de vie, d'être vivant. On pourrait donc arriver sur des logiques qui visent à maximiser le nombre d'individus vivants, peu importe leurs conditions de vie, ce qui est, en fait rentrerait en conflit en fait avec le bien-être des individus eux-mêmes, hein, si on doit décider entre augmenter le nombre d'individus vivants ou alors améliorer le confort de vie. Si on est biocentriste, on va plutôt considérer qu'il faut augmenter le nombre d'individus. On peut avoir aussi toutes les logiques écocentristes, où en fait on va mettre les écosystèmes au centre des préoccupations. Ce qu'il faut, c'est absolument maintenir les écosystèmes. Alors c'est généralement lié en fait au biocentrisme, dans le sens où si on cherche à maintenir les écosystèmes, c'est bien parce qu'on attend d'eux qu'il y ait un maintien de la vie, de l'existence. Toutes les idéologies naturalistes qui visent un maintien de la nature et donc qui sont en fait de nouvelles croyances, hein. Il n'y a pas de divinité à proprement parler à l'intérieur, mais il y a quand même une sorte de déité de la nature qui serait supérieure, qui serait une entité qui déciderait avec un peu cette vision finaliste de la nature, tout est construit d'une certaine manière et il faut conserver cette manière de faire. Ça aussi c'est quelque chose qui va opprimer les animaux, et en fait du coup toutes ces logiques qui tournent autour du vivant, du maintien du vivant, de mettre le vivant au centre des préoccupations, ça va rentrer en conflit, ça va rentrer en contradiction avec les intérêts des êtres sentients. Et du coup si on prend le critère de vivant, on ne prend pas le critère de sentience. On peut aussi prendre le critère de sentience, mais il y a un moment, il va y avoir un conflit entre les deux.
Non, ça me semble très compliqué de répondre à la question de manière exhaustive en si peu de temps. Je voudrais juste indiquer encore une fois une ressource que je trouve intéressante et accessible sur le sujet, c'est les conférences de Victor Durand-Lepeuch, qui est le créateur et l'animateur du podcast Contre le spécisme comme un poisson dans l'eau, que je recommande très très chaudement à tout le monde. Il a beaucoup traité de cette question des penseurs du vivant et des discours effectivement spécistes qui étaient accompagnés notamment de défense de l'ordre naturel, de la mort, de la souffrance, via la chasse aussi. C'est des discours qui en arrivent à défendre des pratiques qui sont source d'immenses souffrances pour les animaux, mais qui sont jugées acceptables parce qu'il y a un certain ordre naturel qui est maintenu, etc. Donc là, on n'a pas le temps, mais je vous invite vraiment à creuser cette question. En tout cas, la question est très intéressante.
Merci beaucoup pour votre réponse concise et merci pour cette table ronde. On va clôturer ainsi. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Et à l'année prochaine pour la Vegan Place 2026.
Thank you.